Le Festif de Baie-Saint-Paul dans Charlevoix, c'est 70 spectacles du 20 au 23 juillet à seulement 50 minutes de Québec. Caravane Palace, Xavier Rudd, Daniel Bélanger, Lisa Leblanc, Richard Séguin, Louis-Jean Cormier, À la claire ensemble, Claude Pelgag, Martha Wainwright et plus. Présenté par SiriusXM en collaboration avec Radio-Canada et Hydro-Québec. Merci à Loto-Québec et Desjardins. J'ai hâte au Festif. Lefestif.ca.
Le Festival international Nuit d'Afrique, le plus grand rendez-vous des musiques du monde, est de retour à Montréal pour une 31e édition. Plus de 700 artistes du monde entier viennent à votre rencontre du 11 au 23 juillet. Parmi eux, ne manquez pas le célèbre couple malien Amadou et Mariam, Ben l'oncle Soul, qui revisite les classiques de Frank Sinatra sur des beats reggae, hip-hop et soul. Les DJ de Canicule Tropicale et le célèbre artiste Quantique chaufferont la salle avec leur platine. Découvrez la programmation complète sur festivalnuitdafrique.com.
Hey, les shows de ruelles reviennent cette année dans la ruelle Gaboury d'Hochelaga. Le concept est simple. 5 jeudis soirs avec des shows d'artistes québécois gratuits, de la bonne bouffe et de la bonne bière. Le 29 juin, À la claire ensemble. Le 13 juillet, Fred Fortin. Le 27 juillet, Les Deux Luxe. Le 10 août, Xavier Caféine. Et le 19 août, un artiste surprise. Ça va être un show raide d'Hochelaga cet été, alors manque pas ça!
Cannes Football Club, 100% foot, 100% débat, 100% Montréal.
Vous écoutez Choc pour sortir des ondes. Podcast, musique, découverte. Sur choc.ca, la musique au rendez-vous.
Bonjour à tous et bienvenue à cette édition 142 de Pop en Stock, le podcast sur les ondes de choc.ca. Mon nom est Jean-Michel Bertillon, mais aujourd'hui, beaucoup de plaisir et beaucoup d'amour pour le lieu qui m'accueille depuis si longtemps. Aujourd'hui, on parle Pardon?
Tu te considères encore comme un accueillé? Comme quelqu'un qui a un accueil? Donc, tu te considères pas comme un résident?
C'est intéressant comme perspective. Je sais pas, j'ai jamais... Oh shit, j'ai tellement pas réfléchi à ça. Mais c'est que je peux pas, en fait...
C'est intéressant comme tourner la phrase.
Toute connaissance de cause, je pouvais pas dire « Ah, la ville qui m'a vu naître, puis là, il y a quelqu'un qui écrit comme sur Facebook. » Ben, c'est même pas vrai, t'es normalement niaiseux. Puis je suis comme « Ok, bon, je viens de Sherbrooke.
» Je savais pas ça. Moi, dans ma tête, t'es un villérois depuis toujours. Je suis comme vraiment déstabilisé par cette information.
« What did you call me? »
Non, villérois?
Non, en fait, oui, je suis à Sherbrooke, des mains de Jean Saint-Arnaud. En fait, c'est pas n'importe qui. Je suis très content de connaître le nom de la personne qui m'a mis au monde. Mais à l'extérieur du sujet actuel, aujourd'hui, nous allons parler de Montréal. Vous avez rencontré Hélène Lorrain.
Bonsoir!
Vous avez rencontré Rachel Hippolyte.
Bonsoir!
Et nous avons l'honneur et le privilège et le plaisir d'avoir aussi M. Will Straw avec nous.
Bonsoir!
Soir, jour, comme vous voulez. C'est en fait, c'est pas comme vous voulez, c'est comme l'auditeur le veut. Donc, la semaine dernière, j'avais commencé l'émission en posant cette question, mais en fait, en répondant à une question que je me pose moi-même depuis longtemps, à quoi ça sert d'étudier la culture populaire. Et je me suis promis que je ferais une esquisse de réponse à chaque début d'émission. Aujourd'hui, soit de par le sujet, qui est la ville, de par la festivité, qui est le 375e, une date saugrenue, s'il en est une, on parle de l'exploration d'un territoire. Et en culture populaire, il arrive assez souvent qu'on parle de cette même exploration de territoire, mais qui est plus un territoire imaginaire. Ça nous permet un peu, avec cette étude-là, de flexer, de forcer, d'entraîner nos muscles, sémiotiser entre le référent et le référé. En fait, l'étude de la culture populaire nous entraîne dans notre capacité de faire des connexions, que ce soit entre les fictions, dans l'usage de la référence, aussi dans la fiction elle-même avec le foreshadowing, le callback, et dans le cas qui nous intéresse aujourd'hui, avec la compréhension même du territoire. Fait que je pensais à qu'est-ce que c'est étudier la culture populaire, puis qu'est-ce que c'est d'être capable de penser à une certaine phrase et voir l'émergence de toutes les significations par rapport à qu'est-ce que c'est de marcher une certaine rue et de voir l'émergence de toutes ces significations. On peut dire que en culture populaire, comme en histoire et en géographie, en urbanisme, on s'entraîne à voir des lieux, non pas d'une manière singulière, mais d'une manière plurielle. Et Montréal, comme je vous disais, étant la cible de grandes festivités pour l'année qui s'en vient, souligne énormément de cette pluri-interprétation des lieux, mais inévitablement, il y a quelques-uns qui vont en échapper. On ne pourra pas tout dire à propos de la ville dans cette année, surtout quand les activités les plus importantes, c'est de faire émerger des énormes marionnettes du fleuve Saint-Laurent.
Mais on va pas toutes les dire, mais aussi, on les crée beaucoup à l'occasion de ce 375e anniversaire-là.
C'est très intéressant, puis c'est vrai, c'est très important, cette notion-là. Mais aujourd'hui, on s'est dit avec Papenstock qu'on ferait le regard autrement. On ferait le regard alternatif, si on peut dire. Et on parlerait d'un Montréal qui ne sera peut-être pas célébré de cette manière-là. On va parler de l'underground, du dark side, et ainsi de suite. Où on va questionner des lieux connus ou des non-connus, des personnalités que l'on connaît pas si bien que ça. Et c'est avec ça que j'envoie la balle à Hélène, qui va nous parler de Jeanne Mance.
Jeanne Mance, oui, donc la cofondatrice de Montréal qui a été instituée ainsi en 2012 pour le 370e anniversaire de la ville. Jeanne Mance est une figure qu'on connaît quand même à Montréal parce qu'elle est présente dans la toponymie, la rue Jeanne Mance, des parcs aussi, des écoles primaires et tout ça. Deux statues quand même assez connues, une en face de l'Hôtel Dieu où elle est penchée et une autre aussi au pied du monument pour Maisonneuve à la Place d'Armes où elle est agenouillée carrément avec un petit Indien là, qui veut s'échapper de ses bras, on dirait. Là. Il n'a pas l'air content.
Non, vraiment pas.
Ben, je comprends pourquoi.
Ben, je sais pas. Il semble.
C'est de se débattre.
C'est ce que j'allais dire.
Et Jeanne Mance, qui est une figure qui est constamment revisitée, justement, à l'onde de différentes interprétations. Et la dernière interprétation qui est à la mode, si on peut dire, ou qui est bien sûr qui est très présente, c'est Jeanne Mance, figure féministe. Et c'est pas faux, mais je trouve que c'est pas vrai. Fait que c'est ça que dont je veux vous parler aujourd'hui. D'abord, quelques dates. Elle a été baptisée le 12 novembre 1606 dans une petite bourgade qui s'appelle Langres, dans la région du Champagne, en France. Et elle est décédée le 18 juin 1673 à Montréal. Même Maisonneuve n'est pas décédée à Montréal. C'est quand même... Elle a décidé de rester pratiquement tout le long. Elle a eu quelques voies. Une fois qu'elle est arrivée en Nouvelle-France, elle est retournée en France seulement une couple de fois, mais elle était très attachée au territoire quand même. Puis elle a décidé de pas partir. Quoique Maisonneuve a été quand même forcée à partir aussi, donc...
She keeps it real.
Oui, absolument.
Very nice.
C'était une infirmière laïque. Moi, j'ai pensé pendant des années que c'était une bonne sœur, que c'était une religieuse.
Mais oui,
Non, c'était une laïque, une missionnaire qui, en fait, a été très inspirée quand même par les Ursulines. Elle était probablement... Elle était à l'école avec les Ursulines, mais c'était, elle a décidé de faire vœu de chasteté quand elle était très jeune. En fait, elle était extrêmement dévote. Mais elle a décidé de... Elle n'a jamais décidé de faire
de
une vie religieuse.
De rentrer dans les ordres.
Oui, c'est ça, de rentrer dans les ordres. Elle a appris à soigner sur le tas. On la connaît, Jeanne Mance, comme étant cette infirmière qui a fondé l'Hôtel Dieu, bien entendu. Elle a appris à soigner sur le tas. Elle a connu la peste. Elle a connu la guerre de 30 ans. Elle avait 11 frères et sœurs et une mère qui est morte quand elle avait 20 ans. Donc, on peut supposer qu'elle était malade un peu les années précédentes. Donc, elle a dû s'occuper de sa fratrie. Son père aussi était une espèce de petit notable de la région. Donc, elle a pris en charge aussi son cabinet juridique. Donc, elle avait beaucoup de responsabilités assez jeune dans la vie. Et... elle possédait son propre attirail médical et qu'est-ce qui est révélé de sa vie parce qu'elle n'a pas laissé de journal intime ou de... elle n'a pas rien laissé ou je pense qu'il y a eu un feu même dans le musée de l'Hôtel Dieu, donc toute trace a été perdue. C'est qu'on la disait très déterminée, très focus là, sur qu'est-ce qu'elle voulait faire. Et qu'est-ce qu'elle voulait faire à un certain point? Elle voulait tout crisser, là. pour aller en Nouvelle-France. Elle avait comme un cousin jésuite, puis il avait raconté à quel point c'était extraordinaire, la Nouvelle-France, et là, elle a voulu s'embarquer. Mais toujours dans un but, c'est ça, de dévotion, d'aller convertir
les sauvages.
Entre guillemets, vous me voyez probablement sur Facebook Live en ce moment,
absolument.
Sauvages, comme 8 paires de guillemets, s'il vous plaît. Et pour ça...
Ce n'est que de la citation ici, on ne pense pas vraiment.
Et en fait, oui, et là, elle a réussi à s'acoquiner avec les personnes qui composaient la Société Notre-Dame de Montréal, qui était la société qui était mise en charge pour justement convertir les peuples autochtones en Nouvelle-France. Elle a joint la société en 1941, c'est une membre un peu tardive, mais c'est elle qui a le plus, qui a le plus eu de nouveaux memberships et le plus levé de fonds. Donc, elle était vraiment capable d'aller voir du monde et leur dire « Hey, toi, tu veux participer à l'élaboration d'une nouvelle colonie en Nouvelle-France? Yes! Joins-moi! Comme, donne l'argent, fais quelque chose! » Ça aurait été une...
Okay.
Ça aurait été comme fantastique faire du socio-financement.
J'ai malheureusement pas de monnaie pour acter.
Mais elle était vraiment bonne, elle a aussi, donc... et qu'est-ce qui est intéressant, d'un point de vue justement toujours féministe, c'est que c'est ça, le membership est passé de 8 à 38 membres, dont 9 femmes, dont des femmes très importantes, des veuves d'anciens financiers, donc des personnes qui avaient, des femmes en particulier, qui avaient beaucoup d'argent à distribuer. Elle a réussi à les rameuter, et ça quand même, ça aussi, bravo. Elle était... quand l'expédition pour aller à Montréal est partie avec Maisonneuve et Jeanne-Mance, il y avait 2 bateaux. Il y en a un bateau qui était sous la direction de Maisonneuve et l'autre bateau, c'était Jeanne-Mance qui le dirigeait. Donc, props, girls. Wow. Super. Elle était trésorière, administratrice, collecteuse de fonds de la colonie pour l'Hôtel-Dieu, plus spécifiquement l'intendante et la gestionnaire de l'hôpital. C'est elle aussi qui décidait comme qui faisait quoi. À l'époque, il y avait comme 50 personnes sur l'île, fait il n'y avait pas 50 personnes sur l'île, désolé. Il y avait 50 blancs sur l'île. Donc, mon erreur, je m'excuse. Donc, c'était assez facile de distribuer les tâches. Il y a des compagnies qui ont plus de gens que ça.
Parce qu'évidemment, on n'allait pas donner les tâches aux sauvages.
Ben non, on est là pour les convertir.
Exactement.
Quoique il y avait certains membres des Premières Nations qui venaient se faire soigner par les bons soins de Jeanne-Mance. Elle est retournée...
Tu as tellement rajouté quelque chose, mais je le ferai pas. Continue!
elle est retournée en Nouvelle-France, c'est ça, 3 fois, dont une fois en 1653 qui a été extrêmement importante. Montréal était le... comment dire, le théâtre d'une guerre assez épouvantable entre justement différents peuples autochtones et il y avait plein de personnes qui étaient comme bye, je m'en retourne en France, c'est vraiment insupportable ici. Et donc, il y avait pas assez de personnes pour défendre cette nouvelle, la mission, la colonie. Et elle est allée en France pour obtenir la permission justement d'une de ces dames, en fait Madame de Bullion, qui était une des grandes donatrices de la Société de Montréal, pour changer la mission des fonds. Les fonds étaient supposés aller à la dotation de l'hôpital, mais sont allés finalement vers le recrutement de nouvelles troupes françaises pour mieux défendre la colonie, ce qui a été fait, ce qu'elle a réussi à donc convaincre Madame de Bullion. Elle est revenue avec plein de soldats et la colonie a pu juste exister, là, prospérer, le mot est encore peut-être un peu fort, mais juste exister. Et selon toutes les sources que j'ai lues, c'est ce geste qui a sauvé Montréal s'il n'y avait pas eu ce travail-là.
Mais la roue d'Oublion n'est pas nommée pour cette madame-là.
Je pense que oui.
Oui, alors c'est dur ou nommer pas les femmes?
Au moins, oui, il y en a quand même quelques-unes, mais il y a les grosses rues de Montréal, tous les membres de la société Notre-Dame de Montréal ont leur nom à quelque part. Et il y avait un monsieur de Bullion, mais il était décédé à l'époque. C'était comme un ministre royal. À moins que ce soit ministre qui a été nommé, mais en ce cas-là, genre, on s'en est fait passer une petite bite.
Non, c'était effectivement pour Madame de Bullion.
Ah oui, elle connaît full ça en plus.
Je l'ai cherché sur Wikipédia, mais OK,
Donc oui, elle a donc selon toutes les sources, elle a vraiment énormément contribué juste au fait que Montréal existe pour le long terme. En 1659 aussi, elle est retournée en Nouvelle-France pour recruter du personnel, 3 sœurs hospitalières. Donc, elle avait quand même une certaine manière de recruter des femmes, ce qui est quand même pas mal hot. Mais aussi, terminer là-dessus, conclure là-dessus, mais si vous avez des choses à ajouter, n'hésitez point. Jeanne-Mance a tout le temps été dans un cadre quand même très féminin. À ce qui paraît, elle pouvait convaincre, elle pouvait justement lever des fonds, tout ça, mais toujours dans un cadre très doux, très peu autoritaire. Elle était comme un peu ratoureuse, mais tout le temps, tu sais, gentille, de manière gentille. Et c'est là, moi, que je me questionne sur, justement, cet apport féministe. C'est sûr que c'est très bien de dire qu'une figure de femme du 17e siècle était capable de mener de, ainsi, mais je me pose la question, en fait, si la plaie féministe aujourd'hui est plus un signe qu'une femme qui fait n'importe quoi, qui déborde un peu du cadre féminin tel qu'on le pense aujourd'hui, une femme qui déborde n'importe quoi, n'importe quelle manière, dans n'importe quel moment de l'histoire, c'est ça, comme c'est pas un signe justement que c'est encore, le cadre féminin est encore là. Je me suis très très mal exprimée, je m'excuse.
Non, mais c'est quand même une idée qui est assez complexe à verbaliser, puis je comprends assez bien ce que tu veux dire, ou du moins j'ai
l'impression. J'ai lu la semaine dernière, puis ça fait comme sur papier, c'était super bon, puis là, je suis plus capable de le dire.
Non, mais, oui, non.
C'est comme c'est révélateur de qu'est-ce qu'on...
Mais est-ce que la question que tu poses, c'est est-ce qu'il faut savoir ou penser qu'on est féministe pour être féministe, ou est-ce qu'on peut l'être?
Ouais, est-ce que...
Très bonne question.
C'est un acte d'intention, c'est-tu, ouais.
Parce que dans le fond, c'est clair que Jeanne-Mance, justement, par ses actions... a fait des actions d'émancipation, mais est-ce que le féminisme est considéré justement dans... Tu t'émancipes dans cette volonté-là d'émancipation, dans le fond, c'est... Mm-hmm. C'est comme si tu avais... Comment dire? Tu t'émancipes en faisant « Oui, voilà, je le sais que je suis en train de faire avancer une cause. » Tu comprends?
Mm-hmm. Alors qu'elle semblait être surtout extrêmement motivée par l'amour de Dieu.
Oui, oui, oui.
Fait qu'on pourrait faire du féminisme rétroactif ou corriger le féminisme rétroactif.
Oui. Ou insuer, genre, un peu comme il existe du Christian metal, du Christian feminism.
Oui, cela existe.
Oui, ça doit exister en plus. Hein,
du non, ça existe, je te confirme.
Du Christian metal ou du Christian feminism?
Du Christian feminism.
Oh, very nice. OK. Ah, c'est le fun. Il y a du progrès qui se fait un peu de partout.
Oui, mais le Christian feminism est quand même assez conservateur. Oui, je pourrais élaborer longtemps, mais je
le ferai pas. C'est pas le sujet d'aujourd'hui, quand même.
On a un autre épisode pour ça.
Oui. Ah oui, puis je voulais ajouter, c'est comme un détail historique quand même que je trouve intéressant, qui a rapport et pas rapport avec Jeanne-Mance, mais au début, la colonie, c'était pour convertir les peuples autochtones de la Nouvelle-France. Puis c'est un peu par la force des choses qu'ils se sont rendus compte que, oups, une ville était comme construite de cela. C'était vraiment une mission, c'était vraiment comme juste un point d'attache avec quelques services pour... T'sais, comme une école, comme un hôpital, pour aider, soi-disant, et civiliser, encore une fois, entre gros guillemets, les peuples autochtones. C'était pas dans un but de vraiment créer une fondation, puis de créer comme... on va créer une ville ici. C'était vraiment juste pour aider les pauvres âmes perdues que sont les sauvages ici.
Un dépanneur à bière, un magasin de comic book... C'était ça, là. C'était
oui, juste, absolument, ouais. Oui. Et le Wi-Fi. Et le Wi-Fi.
Oui, exact.
Éventuellement. Puis là, ils se sont rendus compte, à force des choses, à un moment donné, ils se sont rendus compte que, hey, c'est vraiment pratique comme lieu géographique, parce que si on marche un peu dans Montréal, si on suit la ligne, on peut dépasser les rapides de la Chine qui sont si dangereux et si destructeurs pour toutes les flottes de bateaux. Donc si on s'installe juste un peu genre la Chine, on peut
beaucoup de troubles.
Sauver beaucoup de troubles et avoir un accès vers une grande partie du territoire nord-américain et une ville peut ainsi naître.
C'est une excellente perspective sur comme l'émergence de ce lieu que l'on
célèbre. Il y a des missions qui ont été fermées. Il y a des missions qui auraient pu devenir villes, mais qui ont fermé parce qu'il y avait trop de guerres, justement, avec les peuples autochtones. Il n'y avait pas assez de sous qui venaient de la métropole et tout ça. Donc, c'est comme un peu un hasard là, qu'on soit ici. Ben, en fait, c'est un hasard qu'on soit ici, point. Là.
En général.
Cue le Universe Song de Monty Python, juste pour le plaisir de la chose. Je vais passer le micro à Will Straw, si j'ai ta permission.
Elle oui, bien oui. Sûr, oui, oui, c'est vrai, c'est vrai.
Ah non,
on co-anime,
c'est
vrai.
Si j'ai ta permission, ça me prend, je m'incline. Qui est James McGill, professeur James McGill, en fait, James McGill, professor of urban media studies?
Oui, mon nom, c'est pas James McGill, mais c'est ça. Disons, qui un autre...
Il y a quand même quelque chose d'intéressant par rapport à ça, et qui a aussi été le directeur du McGill Institute for the Study of Canada.
Non, depuis un an, je ne le suis plus.
Non, c'est ça, c'est réglé. Oui, qu'il a été. C'est juste que je n'avais pas fait la biographie quand j'ai fait votre introduction, puis là, je suis comme... Là,
Professeur à McGill.
Full.
Oui, hein?
Professeur plein, oui.
Ouais, ben oui, tellement plein qu'il y a un autre nom.
C'est ça.
Comme James Bond, on te redonne un autre titre. Merci, M. Straw. Maintenant, vous êtes aussi James McGill. Mais qui veut nous parler, en fait, je trouve que le sujet est extrêmement intéressant. Je me rappelle du documentaire Dark Days qui parlait de la ville souterraine à New York. On va pas tout à fait parler de souterrain, mais on va parler de deux territoires qui se chevauchent, le Montréal de jour et le Montréal de nuit.
Oui, un peu ça, et
Et dans d'autres villes aussi, parce que...
Oui, mais... parce que depuis, disons, 20 ans maintenant, mes recherches se sont concentrées sur la nuit dans les villes et ça a commencé et ça continue avec Montréal. Je me suis intéressé depuis longtemps à la nuit montréalaise. Je suis ici, j'ai vécu ici, ça fait 35 ans. J'ai fait plusieurs études, disons, sur la musique disco à Montréal dans les années 70. Je continue à poursuivre des recherches sur le crime et la corruption dans les années 50. Et aujourd'hui, je m'intéresse beaucoup à ce qui se passe autour de la gentrification et ses effets sur la musique et la culture de nuit à Montréal. Mais de plus en plus, je me pose la question, est-ce que Montréal est vraiment une ville de nuit, une ville nocturne? On a toujours tendance à penser ça. On dit que Montréal, le nightlife est plus dynamique qu'ailleurs au Canada, que Montréal est une ville festive qui ne dort pas. Mais je suis originaire de la ville de Hamilton, ville industrielle en Ontario, où je suis sûr que vous n'avez jamais mis pied.
Moi, j'ai jamais mis pied.
Mais qui n'a pas de toute la réputation d'une ville de nuit. Mais en fait, à Hamilton, il est plus facile à trouver des supermarchés ouverts à 24 heures, des restaurants. Ce sont des Tim Hortons, bien sûr. Mais, dès ma dernière visite à Hamilton, je me suis posé la question, est-ce que Hamilton est plus une ville de nuit que Montréal? Et la raison est simple. Pour Hamilton, les usines fonctionnent à 24 heures. Alors, les commerces restent ouverts pour servir des gens qui travaillent la nuit. Alors qu'à Montréal, la nuit festive, c'est surtout une affaire des jeunes. À Hamilton, la nuit est peuplée par des gens plus âgés qui travaillent dans les usines. Et puis, je suis allé récemment à Toronto où j'étais surpris. On dit toujours Toronto, c'est une ville plate, tranquille, mais j'étais surpris de voir que les librairies, les supermarchés, les boutiques restent ouvertes souvent jusqu'à minuit sur certaines rues, ce qui est rarement le cas à Montréal. Mm-hmm. Alors, j'aimerais peut-être vous poser à vous deux, vous trois qui sont ici, est-ce que Montréal, c'est vraiment une ville de nuit par rapport aux autres villes que vous connaissez peut-être?
Je fais dodo à 11h, mais what do I know? And I live in Unsick, tu sais, c'est comme c'est super loin. Mais moi, je me pose la question, qui a un peu rapport, le discours sur Montréal comme étant cette ville si le fun, ouverte, décontractée. Ouais. Moi, j'ai tout le temps l'impression que c'est une vaste supercherie. J'ai la misère, cela dit aussi, à filer d'autres villes, mais je trouve qu'on n'est pas plus décontracté qu'ailleurs. Là. Il me semble qu'on fait notre gros possible comme tout le monde.
Je suis pas certaine. Ce que je voulais dire, c'est que j'allais aller dans la même voie par rapport à Toronto, où justement la surprise lors de mes dernières visites à Toronto, c'est justement le fait que ça casse tout le cliché qu'on peut avoir de cette ville-là, qui est vraiment super intéressante, qui a des musées vraiment le fun, qui a une vie effectivement tant diurne que nocturne qui est intéressante. Puis c'est vrai par rapport au commerce 24 heures. Je me rappelle lorsque je suis allée visiter ma tante à Miami, en Floride, qui habite depuis presque une vingtaine d'années maintenant. La première chose qui m'avait frappée, c'était justement de voir tous ces magasins, des Walmart, mais aussi des plus petites boutiques qui étaient ouvertes 24 heures. Et notre grand fun, dans le fond, sincèrement, une de mes attractions touristiques préférées a juste été de pousser mon chariot dans cette boutique-là à 2 heures du matin parce que j'étais juste ébloui par l'existence de ces ouvertures-là. Donc, c'est une ville de nuit, c'est peut-être une ville nocturne pour le divertissement, mais de vivre la nuit, je suis pas certaine de ça, moi non plus.
Et ça m'intéresse parce que depuis 20 ans, la façon dont les villes traitent de nuit a beaucoup changé. Je veux pas parler trop longuement, mais on peut dire que ces changements, on peut les voir à trois niveaux. Dans la façon dont la nuit est mesurée, je vais en parler un peu, analyser, dans les nouveaux instruments de gouvernance de la nuit et dans les formes d'activisme politique qui prennent la nuit comme objet d'intervention. On sait que jusqu'aux années 90, la nuit était pour les villes, n'était qu'une durée de temps qu'on cherchait à contrôler. Les gens honnêtes travaillaient le jour, la nuit n'est représentée pour les, la ville, des villes que des problèmes résoudent. Et je me souviens, en 94, j'ai rencontré des gens à Manchester, qui essaient, en Angleterre, qui ont essayé de changer, en fait, cette perspective sur la nuit en disant, bon, la nuit, en fait, contribue beaucoup à l'économie municipale.
Là,
bon,
c'était le gros boom de Manchester.
Oui,
en
c'est
plus,
juste
là.
Un peu après le Manchester, ouais, et l'époque d'or du rave, mais en fait, des propriétaires de boîtes de nuit, des propriétaires de compagnies de taxi, des gens qui tenaient des restaurants de fast-food, sont allés au gouvernement municipal pour dire, nous, on fait partie de l'économie municipale, elle n'est pas juste, bon, un supplément
un
à
plat,
ça. Et au cours des 25 années qui ont suivi, l'idée d'économie de nuit est entrée beaucoup dans la mentalité des administrateurs de ville. Mais aussi, on cherche de nouvelles formes de représentation du monde nocturne dans la gouvernance des villes. Et au cours de la dernière campagne électorale présidentielle en France, par exemple, il y a un certain Christophe Vidal que j'ai rencontré qui porte le titre de maire de nuit Toulouse.
Oh,
Mayor
ouais.
Nightmare. Pas Nightmare. Nightmare. il a écrit une lettre à tous les candidats à la présidence en demandant ce qu'ils avaient à dire aux 10 millions de Français qui vivaient et travaillaient la nuit. Bon,
moi, j'ai déjà une question sur le maire de nuit. Est-ce qu'ils sont élus, ces gens-là?
Mais c'est intéressant parce que normalement, ils ne sont pas élus lors des élections municipales, mais ils sont souvent choisis par un comité des représentants de l'économie de nuit. Souvent, ils sont nommés par l'administration municipale. En fait, le premier des maires de nuit, c'est aussi quelqu'un que j'ai rencontré, Mirik Melin à Amsterdam. En fait, Amsterdam, c'est la première ville au monde à avoir son maire de nuit. Et lui, Mirik Melin, était entrepreneur dans le business de nightlife. Il était propriétaire, je pense, des boîtes de nuit, organisait des événements. Puis, à un certain moment, le gouvernement municipal d'Amsterdam a dit « On veut que toi, tu représentes la nuit pour nous, parce que nous, les administrateurs de toute la ville, on est des gens de 12 jours. »
Oui, ils font de 12 heures à 22 heures.
Oui. Alors, Mirik Melin a été le premier, non seulement maire de nuit, mais j'aime beaucoup le terme qu'ils ont aux Pays-Bas, « Nachtburgermeester », ce qui veut dire « maire de la nuit ». Puis après ça, Londres a nommé cette année, au mois de janvier, je pense, son tsar de nuit.
Oh my God! Wow.
Une femme LGBTQ très intéressante, qui fait qu'il est américain, mais elle vit à Londres depuis longtemps. New York va nommer ce qu'ils vont appeler ambassadeur de la nuit.
Est-ce que c'est le premier en Amérique du Nord ou il y en a d'autres en Amérique?
Mais il y a Downtown Iowa City.
All places!
Ouais, ils ont engagé enfin une femme pour promouvoir le nightlife à Iowa City.
Iowa is lit!
Paris a son maire de nuit.
Ah, ok.
J'ai encore trouvé aussi le maire de nuit de Paris, qui est un décadent, qui, je pense qu'il n'est pas payé, ni même reconnu officiellement, j'en suis pas certain. Mais c'est intéressant parce que notre maire à Montréal, Coderre, a joué avec l'idée de nommer un maire de nuit. Et lors des premières élections, quand il a été élu, on lui a posé la question, est-ce que Montréal devrait avoir un maire de nuit? Mais il a dit peut-être, mais je pense que lui, il ne veut pas juste devenir le maire du jour, de la journée. Il veut,
bon point.
Toronto et Edmonton, ils en parlent aussi. Et c'est intéressant pour moi l'idée que les gens de la nuit, les 10 millions de Français, par exemple, dont Christophe Vidal a parlé, est-ce que c'est l'équivalent d'une circonscription électorale? Est-ce que c'est comme un territoire qui doit être représenté dans la gouvernance municipale? Il y a beaucoup d'endroits maintenant où on dit oui, on a autant le droit d'être représenté comme population de la nuit que ceux qui vivent dans Hanzec ou Saint-Michel ou un autre quartier plus traditionnel, plus géographique. Et c'est intéressant parce que est-ce que la nuit, évidemment, c'est une durée de temps, mais de plus en plus, on y pense comme un territoire, comme un lieu en quelque sorte. Alors, est-ce que il y a des gens, des habitants de la nuit, il y a des maires de la nuit, comme j'ai déjà dit, est-ce que les populations de la nuit sont différentes de celles du jour? On a dit récemment en Angleterre, en fait, quand le tsar de Londres, le tsar de nuit de Londres a été nommé, que les gens qui habitent la nuit, par exemple ceux qui sortent écouter et faire de la musique, ont moins tendance à voter dans les élections que les gens du jour. Alors, est-ce qu'on peut poser la question, est-ce que la nuit est sous-représentée dans la gouvernance des villes. Qu'est-ce que vous en pensez?
Ben, moi, je me souviens quand... je ne sais pas si tu vas parler du scandale du divan orange, parce que c'est peut-être très symbolique de toutes les tensions qu'il y a à Montréal par rapport au, à la vie de nuit. C'était fou à quel point c'est un enjeu polarisant, parce que d'un côté, il y a les personnes qui... C'est ça, plus des fêtards, donc, qui vont sortir tard le soir, et d'un autre, des personnes qui étaient... qui ont vraiment été très rapidement étiquetées comme des personnes très plates, qui ne savent pas profiter de la vie, donc un peu anti-Montréal, parce que Montréal est cette brand-là qu'on profite de la vie, tout ça, même que je pense que ce que je pas vrai, mais bon, ça, c'est une autre question. Et non, il y avait comme... Moi, j'ai lu un argumentaire de l'administration municipale, en fait, de l'arrondissement, qui disait « Chaque personne a le droit à une quiétude, chaque résident a le droit à une quiétude. » Et c'est bien plate, mais le divan orange ne fournit pas cette quiétude-là. On doit trouver un moyen.
Et même si
tu
achètes un condo à deux pieds du boulevard Saint-Laurent et de Duluth ou Rachel, tu as droit à la quiétude.
C'était ça leur argumentaire.
C'est leur argument.
Ouais.
Puis même si tu le sais qu'il y a une vie de nuit dans ce quartier-là, dans ce coin de rue-là. Et j'étais... Je sais toujours pas quoi penser, mais quoi qu'on n'est pas obligé d'avoir une opinion, surtout dans la vie, là. Mais c'était super polarisant. Puis je pense que c'était une dame, d'ailleurs. Je pense que son nom avait peut-être même circulé dans les réseaux sociaux. Oui. Comme, tu sais, il y avait beaucoup de haine, là, chargée envers cette dame qui continuait à appeler la police pour le divan orange, le son du divan orange.
Parce qu'en même temps, ça devenait... Tu sais, cette dame-là, pour le meilleur et pour le pire, devenait l'emblème de l'anticulture.
Oui.
Parce que le divan orange, c'est quand même... C'est pas un lieu anodin. C'est un lieu qui est reconnu comme pour sa relève, pour son importance comme plaque tournante musicale pour la ville de Montréal. Fait que le fait qu'elle se plaigne du bruit, c'était pas l'intolérance face au bruit, c'était c'est la culture. On développe de la culture actuellement. Madame, s'il vous plaît, laissez-nous faire de la culture en paix. Puis c'est super intéressant parce que ça me rappelle Midnight Nation de J. Michael Straczynski et Steve Dillon. C'est un graphic novel où dans la préface, Straczynski explique que parce qu'il prenait des longues marches la nuit pour aller chercher son inspiration, Straczynski qui est l'auteur de Babylon 5 et de Sense8, il dit que le jour, il passait dans un parc où il y avait des familles, et le soir, il passait dans un parc où il y avait des junkies, des gens de la faune nocturne, et il était surpris comment un territoire pouvait être occupé par deux faunes totalement différentes. Fait que je trouve que ça a énormément de résonance avec ce que vous dites, que oui, il devrait avoir quelqu'un d'autre qui s'occupe de ça parce que c'est pas la même place.
C'est intéressant, par exemple, dans le quartier Oberkampf à Paris, bon, où il y a eu depuis cinq ans une lutte entre les propriétaires de bars et les résidences. Ce qui est intéressant, c'est que de chaque côté, ils réclament la tradition. Alors, les propriétaires de bars disent ça a toujours été un bar festif, un bar de sociabilité. Et les résidences disent non, ça a toujours été un quartier de famille tranquille. Et tu vois des affiches sur les bars contre la bistrophobie. Je trouve ça fascinant, ce mot bistrophilie. Ah, vous détestez les bistrots, mais il y en a là, on fait partie de l'histoire du quartier. Alors qu'à Montréal, on voit les pancartes la nuit, le bruit de nuit.
Beaucoup.
C'est intéressant aussi parce que le conseiller municipal du plateau m'a dit que on sait qui va se plaindre, et ça n'a rien à voir avec nécessairement l'âge, mais c'est le pays d'origine. Ceux qui viennent d'un pays où on s'attend à ce que la police vous aide, ils vont être les premiers à appeler. Ceux qui viennent des pays où on a un peu peur des policiers, on n'appelle pas. Elle a dit, en fait, que ce sont surtout les Européens de l'Ouest. Elle a nommé un pays que je ne vais pas nommer, qui se plaignent le plus souvent. C'est les Français, mais...
OK.
Mais je vais vous renvoyer une question par rapport à ça. Quel quartier à Montréal est-ce que vous pensez qui change le plus de la nuit au jour?
Hochelaga.
Ouais.
Je dirais rapidement.
Je dirais Mile X ou Hochelaga.
Ouais.
Non, okay.
Centre-Sud, peut-être. Mais ça revient à l'excroissance de Hochelaga, dans le fond, après le viaduc. Là, mais...
Oui. Parce que j'ai vu, je me suis promenée dans Hochelaga l'année dernière une couple de fois, puis c'était 16. Quoique la jour, il y a quand même une grosse mixité sociale, mais...
La nuit,
la nuit
oui,
j'avais un peu peur, ce qui m'arrive jamais dans Unsick.
Wow. Ouais.
Même s'il y a personne.
Oh, oui, non, mais je suis assez d'accord avec ça.
Pour avoir mais il y a une autre question que je voudrais vous poser, parce qu'on a eu depuis longtemps, mais depuis 5-10 ans, les nuits blanches, les événements artistiques la nuit, dans les pays, les villes de l'Amérique latine, hein, on a de plus en plus les noches de museos, les nuits de musée, les noches de librairies, nuits de librairie. On peut dire que ça aussi, ça représente une extension de l'activité de la nuit, une plus grande diversité. Mais est-ce que c'est aussi une façon de nettoyer la nuit, de le rendre plus, disons, civilisé? Est-ce qu'on veut ça ou non? Est-ce qu'on veut garder le côté transgressiste, festif de la nuit, ou est-ce qu'on veut pousser la culture de plus en plus loin, disons, dans la nuit profonde, pour que, bon, c'est pas juste la musique et l'alcool?
Bonne question. Comme ouais, le parc Émile Gamelin, en gros, là. Comme cette idée-là que c'était un rassemblement.
Ouais,
là, ils ont mis le jardin, puis c'est comme, tu peux plus rien. C'est ça, exactement. Disturbing the Peace, c'est comme tu peux plus faire ça, là. C'est très intéressant, puis c'est là où ça devient une problématique. On peut cerner ces problèmes-là, même dans notre ville, qui nous semble un peu moins nightlife-ish, probablement à cause du froid. Il y a quand même 5 à 6 mois où tu peux pas vraiment avoir un nightlife.
C'est ça, mais les mois qu'il y en a un, watch out, là.
Oui, c'est ça, mais ça, c'est retour du réprimé, là. Les gens sont tellement tannés d'être à l'intérieur de chez eux que le 23 avril, sont en petite short. Yeah, let's do it!
Même pas le 23 avril. Cette année, en février, il avait fait 10 degrés. Oui, déjà, j'avais vu une affiche sur le plateau. L'été est arrivé, paella. J'étais, waouh, sérieusement, cette ville.
Cargo shorts, oui.
Cette ville.
Moi, je me pose la question. Je me rappelle qu'on avait parlé dans le séminaire que tu avais suivi, que j'avais suivi avec toi, sur les nuits blanches, justement, puis les comment la transgression est possible dans la nuit, mais dans la ville. Mm-hmm. Puis j'ai pas assisté à beaucoup de nuits blanches dans ma vie, mais oui, il y a comme tellement des manières, justement, de nouvelles manières de gouverner la nuit. Donc, on va faire un gros événement comme ça.
Une nuit par année.
Cadrer l'activité, puis tout la cooptation capitaliste là, qui vient avec ça, donc présentée par Budweiser. C'est pas Budweiser, mais le lait. Genre, je sais pas, comme un truc familial.
C'est le lait.
C'est le lait.
En partie, oui.
Jusqu'à quel point ça, on perd de cette... du sentiment un peu justement de rébellion, comme quand on revient à 2-3 heures du matin en bicycle, moi j'ai un petit frisson genre de « Ooh, I'm so wild tonight », parce que c'est ça, c'est d'habitude, je dors à 11 heures. Mais là, dans la nuit blanche, il y a un frisson comme de communauté qui est très agréable, mais c'est très « legit », là, c'est extrêmement legit. Qu'est-ce qu'on fait, là? C'est très valide.
Ouais.
On peut dire que dans un pays, dans une ville, par exemple, comme Mexico City ou Bogota, où les gens ont, depuis des décennies, ont eu peur de sortir la nuit, que quelque chose comme une nuit blanche ou une nuit de librairie, en fait, ils ont le sentiment, s'ils assistent à ça, de reprendre contrôle de leur vie. Alors, on peut voir là ils peuvent voir que la ville, la nuit peut être sécuritaire et sociable. Mais, alors, dans ce cas-là, je pense qu'on peut dire qu'il y a un aspect très, presque radical. Mm-hmm. Alors qu'à Montréal, on a plus tendance à penser que le gouvernement ne veut que tout se passe au quartier des spectacles. Il faut mettre tout ça. Il y a eu la crainte, il y a 3-4 ans, que l'administration municipale voulait qu'il n'y ait pas de musique à Montréal ailleurs que dans le quartier des spectacles. En fait, ce qu'il voulait vraiment, il ne disait pas, c'était de faire en sorte que le Divan Rouge ou la Casa Popular fermerait. Mais c'est pas... Disons,
ça fonctionne pas comme ça.
Non. Machiavélique comme plan.
Ouais. Et juste une dernière chose dont j'aimerais parler, si je peux, c'est qu'on voit de plus en plus des mouvements radicaux activistes qui se passent la nuit. On peut dire même le printemps érable ici a commencé dans la journée, comme bon, les manifestations étudiants autour de l'UQAM et tout ça. Mais ça finit avec les marches de nuit après le souper dans les quartiers. On a eu une nuit début en France l'année passée. En Turquie, en 2013, les manifestations dans le square Taksim qui se passaient la nuit. Alors, c'est comme si la nuit, je ne sais pas, il y a quelque chose de spécial. Est-ce que ça rejoint un peu la vieille idée de la nuit comme ton espace de transgression, quelque chose qui est presque médiéval ou je ne sais pas.
Un carnivalesque encore.
Carnivalesque, oui.
Ouais, super bonne question.
Très bonne question, oui, en fait. Est-ce qu'on peut se permettre plus de trucs la nuit? Le couvert de la nuit?
À cause du symbolisme qui a toujours été là.
Ou est-ce que...
C'est une force, tu sais. Mais les manifs de nuit, tu sais, je pense aux manifs de nuit, où est-ce qu'il y avait toujours plus de troubles que les manifs de jour, où est-ce qu'il y avait, qui était vraiment infiniment plus encadré par les policiers aussi. Les manifs de nuit, pour y avoir participé vraiment de manière active en 2012, c'est ça, là, c'était le fait, tu sais, c'est là que la répression, elle se passait. Là, elle se passait un peu de jour, mais c'est la répression, elle se passait énormément la nuit. Mais pas des manifs de casseroles familiales, là, vraiment.
Non, c'est ça,
sur René Lévesque et tout, tu sais.
Il y a aussi des mouvements comme en Inde pour les femmes. On a eu, depuis, dans les années 70 ici, le mouvement aux États-Unis aussi, le mouvement Take Back the Night de la part des femmes.
Oui.
Mais depuis cette année, l'année passée, en Inde, on a vu un mouvement qui utilisait beaucoup le hashtag I will go out. Les femmes qui travaillent dans le secteur haute technologie, qui veulent, quand ils sortent de travail à 11 heures, pouvoir marcher dans la rue, aller dans un bar et... se font bien sûr harceler. Alors il y a des mouvements très très intéressants et radicaux. Au Brésil aussi c'est la même chose, le droit de, si la ville est devenue le nouvel territoire du fun des événements culturels, avoir le droit de pouvoir participer à ça en sécurité et paix est devenu très important.
Ben on va, bon Dieu, ça pose plein de questions. J'aime ça les chroniques qui posent plein de questions. Merci Will.
Super ouverte. Puis que là, ça te permet de réfléchir dans
tes... Et Rachel, est-ce que tu penses que tu es capable d'appliquer ces trucs-là à Saint-Michel?
Je le sais pas. Je sens plein de pression sur mes épaules. Il faudrait que je me fasse élire, ce qui arrivera pas. Ouais, non, je le sais. J'ai plusieurs amis qui seraient en désaccord avec mon affirmation que je me présenterai jamais en politique. Mais
do it.
Non. Oui, donc c'est ça. Je vais parler de Saint-Michel. Pour quelques raisons. En fait, ce que je trouve intéressant dans le cas de Saint-Michel, c'est que c'est à la fois un quartier qui peut être pas représentatif, mais comment je pourrais dire ça, symbolique de comment un quartier industriel se développe, pas où finalement se finit par se développer, dans le cas de Saint-Michel, moyennement. Pour ça, et aussi pour l'aspect communautaire de Saint-Michel, La vie communautaire de Saint-Michel s'est beaucoup articulée, surtout à partir des années 30, s'est beaucoup articulée avec l'immigration qui est arrivée dans son territoire, les Italiens au début, qui se sont déplacés vers Saint-Léonard. Dans le fond, ils sont partis de la petite Italie, dans le cas des Italiens, ils sont partis de la petite Italie, ils sont allés dans Saint-Michel, puis après ça, ils sont allés à Saint-Léonard. Les Portugais,
même chose.
Déplacement. et la communauté haïtienne qui, elle, reste très présente. Je reviendrai si jamais j'ai le temps. Donc, on va faire un petit, des petites notes sur Saint-Michel, qui était une ville avant.
Hein, oui.
Donc, ça a été Ville Saint-Michel. Et c'était un village agricole. Avant, donc, le boulevard Saint-Michel était la montée Saint-Michel et c'était beaucoup plus bucolique. Maintenant que les 6 voies que compose le boulevard, j'étais assez bien placée pour le savoir. Et les carrières de calcaire étaient présentes dès la deuxième demi du 18e siècle. Donc, c'est pas arrivé avec la carrière Miron, qui, elle, a été plus au début des années 1900. C'était en 1900, il me semble que j'ai noté ça. 13, 14... Bref, donc ça date pas de ce temps-là.
Il y avait beaucoup de carrières.
Il y avait énormément de carrières.
À Montréal au complet.
Absolument. Mmh.
La rue des carrières.
C'est ce que j'allais dire. Donc la rue des carrières, si vous connaissez Montréal, c'est justement cette chose qui sépare Rosemont de... En tout cas, qui suit la traque, grosso modo. Là, il y avait plein de carrières. Le Parc Laurier était une ancienne carrière. Le
Parc Jarry.
C'est vrai, le Parc Laurier était aussi une ancienne carrière.
Entre Marquette, le Parc Marquette, entre les deux parcs, entre le centre Parc Marquette et le parc, c'est pour ça que la rue, elle descend.
C'est vrai.
J'ai appris ça, je trouvais ça très intéressant. Excuse-moi, continue.
Non, mais c'est bien correct. En fait, c'était justement pour dire, de toute façon, je m'en allais de là. Il y avait énormément de carrières, mais les carrières Miron, la première, et Falcon par la suite, sont restées parmi les rares carrières à Montréal qui étaient ouvertes, puis qui sont restées là. Puis l'apogée des carrières, donc c'est ça, a eu lieu des deux carrières, les carrières Miron et Falcon, a eu lieu dans les années 60 et 70, avec leur agrandissement respectif.
Il y avait il restait de la place, donc.
Oui, là, à ce moment-là, c'est ça, ça s'est étendu. Et c'est devenu un quadrilatère énorme, qui a été délimité par l'autoroute au sud, puis neuf à l'est. À l'ouest, l'autoroute, là.
À l'ouest, c'est pas Papineau?
Papineau, oui. Ouais. Oui, c'est ça. À l'ouest, c'est Papineau. Ben oui, l'autoroute est par là, excusez. Je fais des mouvements de même. Dans les années 80, les deux carrières occupaient quand même 46% du territoire michellois. Ce qui est quand même énorme, quand même. Tu dis, dans le fond, Saint-Michel, en gros, c'était les carrières.
Oui.
Il y avait, bon, il y a des habitations, puis petite anecdote personnelle, je suis née dans Saint-Michel, sur le boulevard Pie-9, et justement, on parlait de Pie-9 qui était délimité à l'est par les deux carrières. Donc, j'habitais en face de la carrière Francon à l'époque. Puis, un de mes plus vieux souvenirs d'enfance, à vie, c'est de sortir de chez moi, puis donc, la carrière Francon qui, à l'époque, avait fermé, mais depuis peu. Et c'est un immense champ jaune lait.
Mais moi,
j'avais pas le droit d'aller.
Comme, mettons, les shops Angus, pendant longtemps, ont défini le paysage de Rosemont, puis de, comme du la limitrophe plateau, finalement. Puis il y avait une vie, étant donné qu'il y avait tellement d'ouvriers, il y avait une ville, une vie qui a été construite autour des Shop Angus. Est-ce que c'était le même cas à Saint-Michel?
Oui, de manière moins intense, mais oui, quand on va sur le boulevard, en fait, tout ce qui est sur les avenues vers l'est, sur Saint-Michel, il y a des maisons, il y a des choses qui ont été faites justement au sortir des deux grandes guerres pour accueillir ces ouvriers-là, oui. Mais beaucoup d'entre eux, justement, donc ça se situait dans le pourtour de Pie-9 vers l'est plus, dans ce qui va devenir Saint-Léonard par la suite, un peu plus en bas aussi, pas loin du métro Saint-Michel, du même nom, donc en bas de l'autoroute. Fait que ça s'est vraiment développé comme autour, un peu comme les Shop Angus. D'ailleurs, je vais en parler plus tard, mais les Shop Angus, dans le fond, c'est l'antithèse de Saint-Michel en termes de développement.
OK.
Puis c'est ça. Donc, je vais revenir là-dessus un petit peu. Donc, après la fermeture des carrières, des deux carrières, Miron et Francon, Miron en 88, Francon en 86, il y a eu des manufactures de tissus et d'autres, donc plusieurs manufactures de vêtements qui ont été faites à ce moment-là et qui ont côtoyé les carrières. Dans le fond, l'emploi d'entreprises privées s'est déplacé des carrières vers ces manufactures-là. Mais c'est un des rares, c'est ça, je revenais, donc un des rares, mais Francon, Miron, ça reste quand même de cette carrière-là que sont sortis énormément du béton de nos des lieux importants de notre ville, la gare centrale entre autres, l'hôpital Sainte-Justine, le stade olympique, la voie maritime du Saint-Laurent, donc c'est grâce au béton de Miron, la place Ville-Marie.
Et la place de Marie,
c'est... Oui, une bonne une partie. Et le complexe des Jardins. Bon, pour ne nommer que quelques exemples de lieux quand même emblématiques montréalais qui ont eu, d'une façon ou d'une autre, les
traces, finalement, de
les traces de Miron, absolument. Mm-hmm. De Miron, la carrière et non pas le poète, quoique. Puis donc, suite à, c'est resté à ce moment-là, les protestations de Miron ont fait que la Ville de Montréal a racheté les territoires des deux carrières en 84 dans le but de les fermer respectivement 2 et 8 ans plus tard, d'ailleurs.
Mais c'était pas devenu des dons par ordure, les deux?
Absolument!
C'est ça l'affaire.
Ben, c'est ce qui se passait, oui. Il va au vélo souvent, oui.
Exactement. C'est qu'en fait...
Des sites d'enfouissement. Voilà, c'est le mot que je cherchais.
Oui, absolument. Des tombes. Non, mais c'est exactement ça. Dans le fond, ils ont fermé, mais dans le cas de Miron, parce que, Franck, OK, dans le cas de Miron, il y a eu, effectivement, ça a été une dompe. Ça a été un site d'enfouissement des déchets qui a été très important. C'était, dans le fond, de l'endroit où on tirait le béton. Saint-Michel est devenu la poubelle de Montréal. C'est ça. Et
aussi du skateboarding.
Tasmar.
Le Tasmar, là, oui. C'est vrai, c'est vrai. Ben. Puis après, il y a eu le cirque. Plus tard.
On va en parler, oui.
On va en parler éventuellement. Mm. Donc, c'est ça. Puis, j'ai comme. Non, ces lieux-là, c'est devenu un site d'enfouissement, donc. Puis, Francon, puis bon, par la suite, il y a eu le complexe environnemental qui fait que, bon, il y a du biogaz et tout ça. Mais il reste tout de même, j'avais noté ça quelque part, il me semble, 75 hectares, que oh, c'est oui. encore de l'enfouissement dans ce coin-là. Ça, à ma très grande surprise, moi, je pensais que c'était complètement évacué, que ce n'était rendu qu'un centre de recyclage et tout ça, mais il y a encore une petite partie.
C'est là qu'ils font le compost, ça doit être ça.
Exact, probablement, oui. Mais qui existe encore, ce site d'enfouissement-là. Et Francon n'a jamais finalement été développé. Ça n'a pas été comme Miron avec la Cité des Arts du Sec et tout ça. Francon reste encore aujourd'hui un endroit où on dépose les neiges usées de la ville. Encore aujourd'hui, d'ailleurs, l'organisme Vivre Saint-Michel en santé avait proposé de faire un projet où est-ce qu'il y aurait 4000 logements sociaux. Il avait monté le projet, il a été présenté en mars aux citoyens de Saint-Michel pour voir de comment, dans le fond, revitaliser ce coin-là qui, à part deux usines, est complètement mort, même encore, 30 ans plus tard. Donc, c'est ça. C'est que Miron s'est développé un peu avec, la Cité des Arts du Cirque, qui est un apport qui est très important. La TOU qui a été faite au début des années 2000. Dès 97, le Cirque du Soleil s'est établi dans Saint-Michel avec son siège social.
Mais c'est ça, mais là tu parles que c'est complètement mort, ben il y a quand même des initiatives.
Oui.
Puis
mais c'est Francon, je parle, qui est complètement mort. Okay, Miron, oui. Miron, okay. C'est autre chose. Mais dans dans le bout de la carrière Francon, en fait,
oui.
c'est le bout qui est le plus
difficile.
Oui.
Mais est-ce que le Cirque du Soleil a vraiment revitalisé le coin? Parce que je vois pas de restaurants, de cafés autour. C'est pas comme
L'impact communautaire que le cirque a eu est important. Ils ont fait plusieurs alliances avec les écoles, entre autres, où est-ce qu'ils distribuaient des billets, où ils ont permis aux enfants du quartier de venir visiter les ateliers, leur ont donné des billets gratuits, ont animé des ateliers de cirque. Mais l'affaire, c'est que le Cirque du Soleil a eu ses difficultés financières, a été vendu en 2015, et depuis, le financement du cirque a beaucoup diminué, ce que déplorent plusieurs acteurs du quartier, justement, que ils remettent des demandes à chaque fois et s'attendent au renouvellement de leurs demandes, puis ça se passe pas. Tant la Maison d'Haïti que d'autres organismes le déplorent, mais bon, il y avait eu un reportage d'ailleurs tout récemment, là, c'était en avril sur le sujet où, dans le fond, le cirque, c'est comme si, comment dire, c'est les gens perçoivent la chose comme étant une trahison du cirque vis-à-vis le quartier, alors qu'ils se sont énormément impliqués dans le quartier. Guy Laliberté, dans une entrevue qu'il avait faite à Radio-Canada pour l'inauguration d'œuvres d'art justement sur le territoire autour du Cirque du Soleil, disant que on trouvait ça important de s'établir dans le quartier, que s'établir dans Saint-Michel, c'est de revenir à l'essence du cirque qui s'établissait dans des lieux extérieurs au centre-ville, et tout ça, puis qui s'impliquait dans le quartier, mais en même temps, qui tient ce discours-là, qui, oui, met de l'art public, mais l'argent comme tel, le cash, il est pas, il est moins là qu'il a déjà été.
OK.
Ouais,
okay.
Ouais, je comprends.
Puis comment tu as parlé de Angus puis de Rosemont, comment, comme les deux, l'antithèse de l'autre, peux-tu élaborer là-dessus?
Oui, effectivement. Donc, en fait, ce que je disais, c'est ça, c'est comme c'est ça. Donc, dans les années, un peu, qu'est-ce que tu as parlé avec Angus, les shops Angus, rappelons-le, c'est le lieu où c'était des vrais shops, là. C'était une manufacture qui était faite par le Canadien Pacifique où est-ce qu'on faisait des locomotives.
On réparait aussi les locomotives.
Et on réparait aussi les locomotives pendant qui a été très actif, bon, pendant les deux grandes guerres. Et Angus, qui était un territoire, grosso modo, la Traque, Saint-Joseph, Bourbonnière, Rosemont,
Rachel au sud.
Rachel au sud, c'est ça, j'avais oublié. Rachel au sud, c'est un territoire qui s'est beaucoup développé. Puis c'est un des territoires les plus nantis de Rosemont actuellement, c'est que l'est de Saint-Michel, donc dans le fond de Bourbonnière à Saint-Michel, s'est développé avant, dès la fin des années 80, et ensuite c'est l'autre bord vers la Trague dans le fond. Puis c'est devenu un des endroits les plus nantis de Rosemont, donc la preuve qu'on peut développer un quartier avec les locaux, les locaux Chopingus, les maisons de ville, tout à l'ouest de Saint-Michel, c'est des maisons qui valent extrêmement cher. Bon, et ainsi de suite, avec le développement aussi de Masson, mais Saint-Michel, qui est aussi un territoire industriel, c'est totalement l'antithèse de ça. Il n'y a pas ce côté, il n'y a pas cette vitalité-là. C'est pas in habiter dans Saint-Michel.
Est-ce que tu penses que c'est, qu'est-ce que tu penses que c'est? Est-ce que tu penses que c'est les gouvernements, les différents paliers municipaux? Est-ce que le fait que ce soit un trou, là, déjà que c'est un peu plus difficile, c'est un trou. Oui. Littéralement. Désolé.
Non, mais c'est vrai.
Puis Chopingus, qui était juste, en fait, un terrain laissé vague durant des années pour qu'il se décontamine, mais qu'on peut construire dessus, ce que ça se.
Il y a plusieurs facteurs. Un de ceux dont je pense particulièrement, c'est que le territoire des shops a été acheté par plusieurs promoteurs privés, dont la Société de développement Angus. Mm-hmm. Et cette société de développement-là a fait un développement pas compétent, mais je veux dire conséquent, de manière graduelle, un après l'autre, organisé, vouloir respecter justement les traces du territoire et tout ça, ce que Saint-Michel a pas eu. Dans le fond, la ville de Montréal a racheté les territoires, c'est la ville qui les a rachetés, c'est pas un promoteur privé, de un, et la ville en aurait pu faire quelque chose, et finalement on a décidé, oui, de l'utiliser, mais de l'utiliser pas pour des fins d'habitation ou de revitalisation. Il y a de ça. Il y a le fait, effectivement, que ce soit un trou, ça aide pas, faut bien le remplir pour essayer de construire dessus. Il y a ça aussi. Le fait que ce soit un plus petit territoire aussi.
Donc, merci beaucoup. Merci Will, merci Rachel, merci Jean-Michel. On doit se terminer là-dessus. Donc, si vous aimez Papa Stock, likez-le sur iTunes et restez à l'écoute pour la semaine prochaine.
Merci pour le mot de la fin. Pour les gens, ben oui, ben, faites toujours vous abonner, faites toujours commenter, critiquer, évaluer notre travail sur iTunes, vous pouvez faire sur une page Facebook, ainsi de suite. Merci à vous tous. Bonne semaine. On va l'écouter Of Montreal, puis Rave Pissed on the Mist and Other Games. On est comme, pas le choix d'écouter du Of Montreal, malgré qu'ils viennent pas de Montréal.
On aurait pu écouter.
Pretend we don't exist. Let's pretend we're in Antarctica.